facile.
Dans cette release de CPU, un boot qui crache, un forum obscur, des docs pas à jour, et nous voilà bien avancés. Nos invités sont Myriam Criquet et Pascal Arnoux, membres du bureau de l'association Montpellibre. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur... Bah oui, ils sont plantés. Ok, c'est parti. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui es en train de soupirer devant l'invite de Grub dans la solitude d'une cryptique invite shell, alors que mince, on t'a tellement dit que Linux, c'était pas si compliqué. Je dois te faire une confession. Entre autres crimes contre l'humanité, j'ai été longtemps, très longtemps, un prescripteur, ou plutôt un évangéliste des systèmes d'exploitation basés sur les logiciels libres. Quelle ne fut pas mon erreur ? Recommander et installer des logiciels libres entraîne une responsabilité, celle d'assister dans la durée. Bah oui, contrairement à Microsoft Windows ou aux produits Apple, tu ne trouveras pas d'enseigne reconnue pour assurer le suivi après install. Et il faut reconnaître que quand on cherche l'info sur Internet, on trouve des réponses, mais pas toujours lisibles pour qui n'a pas un master en shell bash. J'ai été confronté à cette situation l'année dernière. Mes parents habitaient en région parisienne et j'avais passé leur PC sous Linux afin de ne plus être importuné pour des histoires de virus, ou en tout cas un petit peu moins. Et il se trouve que mes parents ont décidé d'acheter une imprimante, et que l'imprimante n'était pas configurable par les outils standards, ou plus exactement, sans le driver Windows proprio du fabricant. Ne pouvant m'y déplacer, j'ai cru me souvenir qu'il y avait dans leur ville une association d'utilisateurs de Linux. Impossible d'en retrouver la trace sur le site de la mairie où j'avais trouvé l'info. Bon, faut dire que le site a été légèrement remanié suite à un changement de majorité municipale. Je me dis qu'il doit bien avoir des réunions régulières pour ce genre d'assaut, outre le premier samedi du mois à la Cité des Sciences à la Villette. Je vais sur l'agenda du Libre. Et bah non, je ne trouve rien. J'écumine les annuaires d'assaut ou les sites spécialisés Linux, je fais appel à mes contacts et rien. Strictement rien d'exploitable ou à jour. On parle de Montrouge quand même, hein, une commune limitrophe de Paris, desservie par le métro. Alors oui, je sais, Paris est une plus petite ville que Toulouse si on compare leur surface. Mais quand même. Enfant du futur immédiat, je vais être honnête. Je suis tombé sur un os en préparant cette émission. J'avais des souvenirs, vagues mais certains, d'avoir croisé une espèce de manifeste pour avoir des Linux User Group plus ancrés dans le local et hors des internets. L'auteur l'est nommé Local Linux User Group. Ce devait être vers 1998, et je me demande si ce n'était pas sur IRC plutôt que sur un newsgroup où j'ai trouvé le lien. En tout cas, il y a eu un moment une page web. 20 ans après, il m'est impossible de remettre la main dessus. Bon, j'avais bien une copie sur un disque dur, le même disque dur où j'avais miné quelques bitcoins quand ça valait que quelques centimes. Et qui m'a lâché ? Qui m'a lâché ? C'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Reparlons des vagues souvenirs personnels de ce texte. Ce manifeste partait d'un constat particulièrement pertinent. À part les rencontres IRL, celles en chair et en os, qui permettaient à des gens déjà en ligne sur leur forum ultra spécialisé de se rencontrer, il y avait paradoxalement de moins en moins de rencontres proprement identifiées, ouvertes à toutes et à tous, même à ceux qui n'avaient pas encore internet, ont installé Linux. Et ceci à un moment où Linux n'avait qu'une notoriété naissante, ce qui voulait dire que pour adhérer à ces clubs sans connaître personne, il fallait un ordinateur en état de marche. Mais que peuvent faire les personnes malheureuses qui n'arrivaient plus à redémarrer leur bécane suite à une installation plantée ? L'idée soutenue était de revenir au principe d'origine. Back from AFK. Reprendre de la distance avec nos claviers. À l'heureuse époque où les clubs d'électronique des années 70 se sont mués en clubs d'informatique, où les gens se retrouvaient régulièrement à un endroit identifié, où un quidam pouvait venir, mais surtout l'information était affichée dans les mairies, les écoles, les commerces et les journaux locaux. Enfant du futur immédiat, Linus Torvalds supposait dans une récente interview que l'extrême diversité et complexité du bureau Linux ralentit l'adoption de l'OS au pingouin. Pour moi, il y a un autre problème. Le manque de présence sur le terrain qui permet aux néophytes complets de trouver un minimum d'aide. Or, sans bouée de secours, qui ne sait pas nager ne se jettera jamais à l'eau. Tant que les zélotes ne l'ont pas compris, ils prêchent dans le désert. Stereotypical working class, already lost.
One day, and I can't feel inside my mind something go away. It's not the thing that I can change you. Cause when I touch you, my colour, you're always born to stay behind. And if you want to figure inside, and realize the fact that you are not so blind. It's not like the thing that I can change you. Cause when I touch you, my colour, you're always born to stay behind.
Comment un particulier nouvel utilisateur de Linux pourrait trouver une assistance physique sur site? Comment? Sinon via une association locale d'utilisateurs de logiciels libres. Alors que ces associations sont, hélas, si peu nombreuses en France. Deux personnes ont décidé de prendre le problème physiquement en allant justement donner de leur voix à différentes conférences libristes et nous profitons de leur passage au Capitole du Libre 2018 pour interviewer Myriam Criquet, juriste et expert dans les licences libres, présidente d'API, Action for Public Interest et secrétaire générale de Montpellibre et Pascal Arnoux, président fondateur de Montpellibre.
CPU, carré, petit, utile.
Myriam Criquet, bonjour.
Bonjour Dascritch.
Pascal Arnoux, bonjour.
Salut.
La première question que j'ai à vous poser, je dois le reconnaître, elle est peut-être propre à déclencher l'Armageddon. Vous dites Lug ou Gul? Pour Local Linux User Group.
Alors en fait, on dit Gul, hein, on le prononce en français, mais surtout le côté intéressant de la chose, c'est les deux L. Hein. Nous faisons à Montpellier la promotion du logiciel libre, pas seulement de Linux. Hein, un Gul avec un seul L, c'est Linux. Nous faisons aussi la promotion de Linux. Linux n'étant pour nous qu'un logiciel libre comme un autre. Et après Lug, eh ben évidemment on peut l'écrire LUG, hein, donc c'est Stallman qui voulait que ce soit des Linux User Group.
Nous nous sommes posé la question récemment de savoir quelle était notre identité. Et donc pour y répondre, nous avons décidé, et parce que beaucoup de questions nous étaient posées par l'extérieur, que ce soit le grand public mais aussi les communautés du libre, nous avons décidé en juillet 2018, de faire en gros une journée intergul, c'est-à-dire une rencontre entre différents gules pour se poser la question en commun. Et du coup, nous avons effectivement travaillé toute une matinée sur qui nous étions, notre identité, et une après-midi sur ce que nous pouvions faire ensemble. Sur justement cette identité, est-on un gul avec un L ? Un gul avec deux L, un lug avec un L, un lug avec deux L, une association ou simplement des acteurs du libre, nous avons chacun exposé. Chacun portait des termes différents. Mais ce que nous en avons conclu, c'est que nous avons tous notre personnalité et que nous n'avons peut-être pas à choisir un terme unique, mais simplement à nous respecter dans nos différences, à porter haut les couleurs que nous choisissons. Et par contre, pour donner de la lisibilité et de la visibilité à ce que nous faisons, d'assumer qui nous sommes. À Montpellier Libre, nous avons décidé d'assumer que nous sommes un GUL, groupement d'utilisateurs de Linux et logiciels libres.
Comment vous avez connu, chacun de votre côté, le logiciel libre? Quelle a été la première fois que vous avez touché du doigt?
Alors, c'est simple, il existait un magazine Login, qui à l'époque, dans son magazine, distribuait des petites galettes. Donc j'ai pu essayer des BSD, j'ai pu essayer des Linux, hein, Mandrake à l'époque, les premiers Ubuntu. J'ai pu essayer aussi IQ. Donc j'étais très intéressé, très fortement intéressé par BOS, qui est devenu OpenBOS par la suite, et ensuite IQ, d'ailleurs, qu'on peut rencontrer sur un stand au Capitole du Libre. Donc tout simplement, dans les années 2000 à peu près, je m'intéressais à l'informatique depuis pas mal de temps, et à l'Internet aussi, mais concrètement au logiciel libre, dans les années 2000, grâce à Login, le magazine Login.
Et donc, en ce qui me concerne, la démarche a été très différente. Vous ne me voyez pas, mais je suis métisse. Le métissage remonte à mes grands-parents et je suis descendante de genre rouge, jaune, noir et blanc, c'est-à-dire des quatre grands continents. À ma connaissance, on n'a pas de personne venue d'Océanie. Et du coup, je suis très sensible à ce qui se fait à l'extérieur. Tu as parlé de ma formation en disant que j'étais juriste. C'est vrai, je suis spécialisée en droit des affaires et en propriété intellectuelle. Et en propriété intellectuelle, j'ai travaillé le droit d'auteur et ses évolutions qui sont le droit de l'audiovisuel, le droit du spectacle vivant et le droit du numérique. Bien sûr, le droit des données est connecté à tout ça. Et depuis 1985, je vois tout ça. Et étant donné que, par définition, la langue française n'est pas ma première langue, hein, c'est l'espagnol, par définition, je suis polyglotte, je parle trois langues et je ne comprends pas ce qui est enfermé dans un territoire. Donc, naturellement, j'ai travaillé avec le CNRS et l'ONU. Et du coup, je suis allée beaucoup dans les pays émergents dont je suis issue. J'y ai aussi une partie de ma famille. Donc, je suis aussi manager, j'ai un MBA Executive Management, et quand tu montes une entreprise ou même quand tu fais des recherches et que tu travailles avec des gens qui sont sur d'autres continents et qui n'ont pas beaucoup d'argent, la solution idéale, c'est d'utiliser des logiciels libres. Donc, au départ, ce qui m'a amené vers le logiciel libre, c'était la gratuité. Je dois dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas la philosophie et la culture libre. Par contre, quand je l'ai connue, je me suis rendu compte qu'elle matchait avec mes valeurs et j'ai décidé de m'emparer aussi avec mon pôle libre de cette cause. J'ai connu le logiciel libre grâce à mon pôle libre. Ça faisait 3 ans que je parlais avec une amie qui travaille dans des universités en Afrique de logiciel libre. Elle est venue à Montpellier, elle est allée à la foire aux associations, elle a rencontré mon pôle libre et elle m'a dit « il y a une association à Montpellier à côté de chez toi ». J'y suis allée. J'ai commencé d'emblée à travailler avec mon pôle libre et j'ai été surprise de l'accueil favorable et de ce que tout de suite on a compris en quoi et comment je pouvais aider, quelle pouvait être ma place. Et puis petit à petit, je suis montée en compétences et maintenant, comme c'est une cause qui matche avec mes valeurs, que j'aime cette culture, et je continue à la promouvoir dans le monde.
Alors juste pour contextualiser un peu la situation, donc ça c'était vers 2013, évidemment si vous le savez, on a aidé à l'organisation des rencontres mondiales du logiciel libre à Bruxelles en 2013 et ensuite en 2014 on les a organisées à Montpellier. Donc évidemment elle a participé dès le début à l'implication du logiciel libre, évidemment c'était pour l'organisation de 2 rencontres mondiales. Donc de suite elle a été immergé dans un bain très libriste.
Quel est le rôle d'un groupe d'utilisateurs local de logiciels ? Qu'est-ce qui le définit en SWAT ?
Je pense, enfin personnellement, Montpellier se situe dans la promotion du logiciel libre. Alors évidemment, ça paraît simple à dire comme ça, mais évidemment, on est amené à rencontrer justement des acteurs qui ne sont pas du logiciel libre, dans l'agglomération ou la région, et du coup on va rencontrer des gens comme Microsoft, comme IBM qui fait un peu de logiciel libre aussi, comme Dell. Voilà, on a des partenaires comme ça qui sont pas forcément libristes. Évidemment, on va leur montrer les valeurs et leur expliquer ce qu'on fait un petit peu, les actions qu'on mène, et afin de faire de la promotion. Nous, on fait de la promotion, on fait pas juste, on parle pas co-libriste.
En fait, pour moi, un LUG, dites ce que vous voulez, c'est, pour moi, ça ne peut être qu'une association. Et en droit français, la loi de 1901 fait que les associations portent des causes. Cette cause, c'est souvent la promotion du logiciel libre. Quelquefois, on y ajoute d'autres choses qui peuvent être la culture libre et les biens communs, comme à Montpellier Libre. La culture libre, c'est la philosophie, le droit, la façon de diriger des équipes et de monter des projets, et la sociologie qui va avec. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la culture libre. Les ressources aussi que l'on crée. Et toutes ces ressources sont pour nous des biens communs, c'est-à-dire des biens qui sont tellement importants qu'ils doivent appartenir à tout le monde et être gérés par tout le monde. Donc une cause, c'est donc ce que porte un GUL qui, pour moi, ne peut être qu'une association. Et dans la façon dont il porte cette cause, s'expriment des différences. On dit en Afrique que l'arbre plante ses racines là où il est. Les racines, on dit aussi en France qu'il n'est de richesse que d'hommes, en ce sens que d'êtres humains. En gros, c'est en s'appuyant sur ses forces, les spécificités, la technicité, la volonté et les intentions des personnes qui composent cette association, que l'on va porter une promotion d'une forme ou d'une autre, des projets terriblement différents et terriblement complémentaires. Mais pour moi, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que le GUL soit gardien des valeurs du libre, c'est-à-dire de la philosophie de cette quête liberté et de ce qu'elle a donné en pratique. Et du coup, on travaille beaucoup, un peu partout. On entend parler de travail collaboratif, participatif, etc. HEC vient d'écrire un ouvrage sur ce point. Enfin, c'est plutôt un rapport pour le Club Montaigne. Dans ce rapport, il dit que les communautés du libre sont celles qui ont poussé le plus loin le travail collaboratif. Pour moi, ils se sont plantés. C'est un travail collaboratif. Participatif que l'on fait, c'est encore autre chose. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de dire, mais on aboutit ensemble. On est libre, on s'enrichit mutuellement. C'est vraiment l'esprit du libre du début jusqu'à la fin.
Sur la question, en fait, des groupes, de ces groupes d'utilisateurs, Au-delà de cela, il y a donc les logiciels qu'ils promeuvent et tout ça. Et à mon grand regret, quand même, il est assez difficile de trouver de l'assistance physique réellement pour le grand public. On leur dit, si tu es coincé à tel endroit, tu peux aller voir sur tel forum. Mais quand il s'agit d'essayer de le dépatouiller parce que la solution, c'est de changer une clé de registre dans les slash ect, slash ini ou des trucs comme ça, malheureusement, ils ne s'en sortiront jamais. Est-ce que je me fais des idées que c'est si difficile que ça de trouver de l'assistance physique sur des distributions libres ou du logiciel libre?
Non, mais ça, en fait, ça dépend des ressources qu'on a en local. Donc, ça dépend du GUL ou de l'association qui va proposer ça. Nous, on propose des prises en main. Bon, c'est sur Linux, hein. Comment installer? On fait des install parties. Comment installer? Ensuite, comment dépanner? Voilà, les gens ont des problèmes, d'utilisation de Linux. Comment aller télécharger un logiciel? Comment le désinstaller? On va pas sur télécharger.com chercher un logiciel. Ça se passe différemment sous Linux. Donc, toutes ces choses-là, on les apprend, mais on apprend aussi à utiliser LibreOffice, on apprend à utiliser Blender, Krita, OpenStreetMap, Wikipédia. Wikipédia, il n'y a pas forcément besoin de connaissances en informatique. Et puis voilà, on apprend aux gens comment créer un compte, comment commencer à contribuer. Et évidemment, on a ce passage cette éducation qui est une éducation quelque part populaire, quoi.
Alors tu vois, nous, on entend ce que tu dis, on entend la question que tu poses. Par contre, on ne connaît pas cette difficulté parce que justement, on l'a anticipée. Et c'est-à-dire que de l'intégration à la prise en main, à la formation, au développement, au projet qui porte sur une sensibilisation, une éducation populaire, scientifique, citoyenne, comme à la recherche la plus pointue, parce que dans Montpellier Libre, on est 186 membres aujourd'hui. Dans ces 186 membres, tu as une université qui a 47 000 étudiants, 7 000 chercheurs, donc 3 IUT d'informatique. Tu as aussi donc une agglomération avec 17 villes. Donc tu vois, je ne sais pas combien on est au final. On est en fait très nombreux. On est une micro-société. Ce qui est rigolo aussi, c'est que tu as des gens entre 8 ans et 85 ans, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, et tu as des gens de toutes les situations. Certains sont dits handicapés physiques, handicapés mentaux. On a des jeunes qui sont autistes profonds, handicapés visuels, handicapés auditifs. Et tout ce petit monde, tu as des gens qui sont au chômage, tu as des retraités, et tu as des gens qui sont en activité et qui ont de très belles entreprises ou associations. Tu as aussi des entreprises et associations. Et tout ce petit monde avance ensemble. Donc on est vraiment une micro-société. Et du coup, cette question-là, nous, on ne la connaît pas. En plus, tu parlais de Happy. API, c'est une association qui travaille pour simplifier la lecture du monde complexe et partager les 17 objectifs du développement durable. C'est l'ONU qui m'a demandé, chaque fois que je prends la parole en public, de promouvoir ces 17 objectifs du développement durable parce que, au cours d'une recherche qui avait duré un an, elle s'était rendue compte que dans tout ce que je faisais, concevais et dans les résultats que cela donnait, je portais ces 17 ODD. Quand j'ai commencé à le faire, quand j'ai pris conscience de ça, on a travaillé avec Pascal et on s'est dit, mais c'est ce que Montpellier Libre fait aussi. Et au fur et à mesure qu'on a pris la parole en public et que je l'ai dit, les gens m'ont dit, mais moi aussi je le fais. Et on se retrouve un très grand groupe sur 4 continents, là encore, c'est pour ça que le nom est en anglais, avec beaucoup de libristes. Cette façon de promouvoir le logiciel libre, la culture libre et les biens communs, c'est ce qu'on souhaite pouvoir, avec d'autres, apporter dans la GUL Academy que l'on a créée et qui commence ses activités le 13 mars 2019 à Montpellier.
Pascal Arnoux et Myriam Criquet, on marque une pause, on boit frais, tranquille, on reprend juste après ça.
Breathe out. the things you have achieved. Pull a smile onto your face. Understand that making friends is easy. So tell yourself it will be okay. Remind yourself that you're not just in it for the money.
Self-help. Vous écoutez Radio Éphémère. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous recevons Myriam Criquet et Pascal Arnoux de l'association Montpellier à propos de la place des Local Linux User Group. Enfin, GUL, GLUG, on verra ça plus tard sur abréviation, c'est pas le principal. Le principal, c'est la mission. Et dans l'associatif, le plus difficile, c'est de mobiliser les bonnes volontés. Et en informatique, faut quand même reconnaître, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes qui soient pédagogues.
Bon, à Montpellier, on s'est organisé autour de communautés, justement, pour faire cette promotion. Et donc, on travaille en lien direct avec des communautés. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, OpenStreetMap, Wikipédia, ça peut être aussi Blender, par exemple, et Mabuntu. Donc, on travaille en lien avec les communautés. Et on fait de la promotion, Framasoft, l'April, on fait de la promotion en local pour ces communautés. Et du coup, on organise soit des frappes permanences, soit des événements de Google et Internet, des jury parties pour Mabuntu. On travaille avec Emmaüs, par exemple, à la montée en compétence des compagnons. Donc, on les forme à installer Mabuntu sur des ordinateurs. Et aussi, ce qu'on fait, alors ça, c'est important aussi, c'est qu'on met à l'aise les gens qui vont venir nous voir en leur disant, si vous venez voir Montpellier, vous avez forcément une compétence qui intéresse Montpellier et forcément une activité qui va vous intéresser. Par exemple, des gens qui ne sont pas du tout libristes de prime abord ou qui ne sont pas du tout dans l'informatique, on leur dit, par exemple, vous parlez plusieurs langues, on a besoin de traducteurs. Vous avez des compétences en dessin, on a besoin de dessinateurs. Et voilà. Et du coup, on fait travailler les gens. Et après, ces gens-là, ils vont rentrer, ils vont faire de la traduction, ils vont faire de la correction orthographique, ils vont faire des dessins. Mais après, ils vont prendre conscience de ce qu'on fait autour. Et par exemple, la promotion du logiciel libre, ils vont avoir besoin à un moment donné d'installer Linux. Donc ils vont passer de Windows ou de macOS à Linux. Voilà comment on procède.
Myriam ?
Alors il y a un empowerment les uns des autres. C'est-à-dire qu'on commence par prendre conscience des choses, ensuite monter en autonomie et ensuite exercer sa créativité. Mais pas exclusivement au regard de l'outil. au regard du développement ou au regard de son utilisation, aussi dans d'autres matières, comme justement dans la pédagogie. Et comme on te l'a dit, dans une association, tu trouves des gens dont le métier est d'enseigner et faire de la recherche depuis des années, et on en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine, c'est pas difficile de faire de la promotion, puisque c'est justement une habitude et une aptitude, une capacité qui a été développée. Et ceux-là se mettent à la disposition des autres pour les aider sur ce point. D'autres se mettent à la disposition de ceux-là pour les aider sur d'autres points. C'est vraiment une micro-société. C'est la diversité du numérique.
Pour une Linux Install Party, est-ce qu'il faut systématiquement demander, mobiliser les PC portables de tous les membres de l'association, ou est-ce qu'on demande au KIDAM qui vient comme ça ramener son propre PC, un Acer qui est sous Windows 10, qui est encore sous garantie, et lui dire « non, mais pas de souci, on va vous mettre Linux », avec le risque qu'il y a un problème qui se passe dessus?
Effectivement, avec le risque, mais jusqu'à maintenant, je touche la table, je touche des bois, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Donc avant l'install party, on organise un café numérique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait la promotion d'Ubuntu essentiellement, d'autres distributions qui ne sont pas des Debian ou des Ubuntu, mais essentiellement on fait la promotion de dérivés d'Ubuntu. Et on a fait ce choix pour avoir une simplification des mises à jour. Donc on fait un café numérique le matin et l'après-midi, on fait une install party. Café numérique, ça sert à quoi? Ça sert à voir les bureaux, les différents bureaux, KDE, XFCE, enfin tous ces bureaux-là, GNOME, et de montrer aux gens, parce qu'en fait, les gens, ils vont passer de Windows ou macOS à Linux et ils s'aperçoivent pas, ils connaissent pas la richesse des distributions. Donc là, ils vont voir concrètement des distributions, des bureaux différents. Et du coup, ils vont faire des choix, déjà des choix esthétiques. Et après, on va leur dire, voilà, c'est un ordinateur récent, un vieil ordinateur, on va les conseiller et on va les questionner. En fait, on s'assoit à côté d'eux, on les accompagne dans une démarche, on leur demande, on leur pose plein de questions. De quoi avez-vous besoin? Je vais faire des jeux, je vais écouter de la musique, je vais faire juste Internet, juste du mail. On va leur dire, dans votre choix, ce qui correspond à votre choix, c'est celle-là, celle-là ou celle-là comme distribution, pas celle-là. Voilà, elle n'est pas adaptée. Et voilà, on y va progressivement. Évidemment, après, il faut faire du support. Du service après-vente. Voilà, merci. Du service après-vente. Et évidemment, faut organiser des rencontres, des ateliers qui permettent aux gens de continuer à la prise en main.
Et si, plutôt que les envoyer dans les entreprises, on mettait des étudiants qui sont en première, deuxième année d'informatique, des étudiants stagiaires, on les mettait à aller rencontrer le grand public pour qu'ils fassent des install parties ou du SAV, je vais dire, sous Linux. Est-ce que ce serait pas une bonne idée pour leur enseigner finalement ce que c'est que le retour d'utilisateur? Ça leur servira toujours plus tard. Je dis ça parce que tu travailles en université, donc...
On a une soixantaine de partenariats très forts, pas seulement avec l'Université de Montpellier, dont on a parlé, mais aussi avec l'ensemble des grandes écoles du numérique. L'AFPA et le GRETA nous envoient aussi des stagiaires, ainsi que les CCI de l'Hérault et du Gard. Quand vous disiez que nous sommes locaux, nous le sommes de moins en moins, puisqu'on commence à devenir vraiment national, et puis on va aller, en plus on nous demande à l'international. Et donc sur cette montée en compétences, ce qu'on a appelé l'empowerment, que l'on a des différentes personnes, nous à Montpellier, on est très exigeant. On a un critère qualité qui est très élevé. Donc travailler avec des jeunes, les faire monter en capacité pour qu'ils soient en mesure de faire des choses simples, ok, mais pas automatiquement partout. On nous a demandé de prendre des services civiques. Et on est OK parce que ça, c'est vrai qu'on peut travailler avec des jeunes et justement leur donner cette capacité de monter en compétences. Et comme la vie est une question de partage, eux nous offriront leur fraîcheur et leur regard différent. Donc on a dit OK, mais attention, pas sur certaines choses. Il y a des choses où l'exigence qualité fait que pour arriver à communiquer et à partager, même simplement, il faut avoir, comme on dit vulgairement, un peu de bouteille.
Est-ce que les collectivités locales s'impliquent avec vous ? Et quand je dis s'impliquer, c'est autre chose que proposer une subvention ou l'accès à un local. Est-ce que vraiment il y a une implication de ce côté-là avec eux ?
Alors, effectivement, par le passé, on a beaucoup travaillé avec la ville de Montpellier et l'agglo. À l'époque, ça s'appelait l'agglo. Donc, on a fait des cartes aux parties accessibilité aux personnes à mobilité réduite pendant 3 ans sur la ville de Montpellier. Donc, on faisait de la promotion du logiciel libre, évidemment de l'éveil, de la prise de conscience au déplacement des handicapés. Évidemment, la ville de Montpellier récupérait les données dans son open data pour nourrir l'open data. Donc, ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on travaille en lien avec la ville de Montpellier et la métropole, puisque c'est devenu une métropole de Montpellier, au travers du CCAS. Donc là, on va proposer des permanences Wikipédia, des prises en main sur LibreOffice, voilà. Et on travaille aussi avec le département de l'Hérault. Donc là, on va organiser très prochainement un événement qui s'appelle les rencontres du numérique solidaire. Donc c'est un peu le lien qu'il y a entre le logiciel libre et l'économie sociale et solidaire. Donc comme partenaire, on aura la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est aussi un partenaire de Montpellier Libre. Et d'ailleurs, à terme, à ce titre, on va organiser en août, donc trois avant dernière semaine, mais c'est certainement la troisième semaine d'août, un événement mondial, les rencontres mondiales sociales et solidaires, libres, éthiques. Et du coup, c'est pour faire un peu la jonction qu'il y a entre ces deux communautés qui travaillent pas suffisamment au regard de Salman, qui estime que ces deux communautés ont des valeurs qui sont communes, mais ne travaillent pas plus ensemble. Et donc, cet événement est voulu justement pour réunir ces communautés.
Alors, je vais rajouter les autres collectivités territoriales. On commence à bien travailler avec la région. C'est une nouveauté dans plusieurs de ces structures, dans plusieurs de ces directions. Mais surtout, en plus de ça, comme on est un peu actif et activiste, en fait, on a travaillé avec d'autres personnes et on a fondé des sociétés. L'une de ces sociétés est une start-up d'État qui s'appelle WorldCop. Une start-up d'État, c'est un haut fonctionnaire qui s'empare d'un sujet. Et Pierre Pérez, haut fonctionnaire de Bercy, s'est emparé du sujet du numérique éthique, social et solidaire pour une société inclusive. Ce haut fonctionnaire a cherché des gens, des entreprises qui puissent travailler avec lui. Comme on avait créé WorldCop, on a travaillé avec Pierre Pérez, qui connaissait certains membres de WorldCop avant. C'est vraiment, les gens se sont rencontrés par rapport à des centres d'intérêt qu'ils portent depuis une trentaine d'années, sur lesquels ils ont performé et surperformé pendant une trentaine d'années. Donc on a répondu à un appel à projet. Cet appel à projet, on l'a remporté. On est parmi les 11 startups d'État, c'est-à-dire qu'on est là pour déployer, on a une mission donnée par l'État, on aura probablement le texte qui, alors on a effectivement été reçu et officiellement on attend les tampons officiels, etc., qui arriveront à l'entour du 1er décembre, mais déjà on peut communiquer dessus. D'ailleurs, on est le 21 novembre dans le cadre du mois de l'ESS à Toulouse avec Carole Delga, Nadia Pelfig et d'autres membres éminents du conseil régional sur ce point. Pierre Pérez sera là et donc on doit tester sur 3 territoires le numérique éthique, social et solidaire. Ces 3 territoires, ce sont 3 régions. La région de l'Occitanie, la région de Bourgogne-Franche-Comté et la région Hauts-de-France. Et en fait, sur ces 3 territoires, donc moi je suis membre du directoire de WorldCop, on est 3 personnes. Pascal est aussi un de nos futurs actionnaires. En fait, mais travaille déjà avec nous, avec Montpellier Libre, mais déjà on s'est positionné sur un point. Le numérique qui est éthique, social, solidaire et inclusif par excellence, pour nous, c'est le libre. Ça fait 35 ans que ce mouvement existe. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on crée des outils. Donc, j'ai fait remonter au gouvernement l'idée qu'il faut absolument connaître d'abord l'existant avant de mettre en place des outils qui, peut-être, existent déjà. On ne va pas réinventer la roue. On va faire simple et efficace. On va donner une lisibilité à ce qui existe déjà sur ces différents territoires, voir s'il y a besoin d'évolution de ce qui existe déjà ou s'il y a besoin de complémentarité. Donc personnellement, je me suis positionnée avec API, simplification du monde complexe, sur on va simplifier en fait la lisibilité des projets du libre. Et Pascal s'est positionné sur on va justement pour pouvoir permettre à des projets d'émerger, travailler sur comment apporter cette culture et ces questions relatives au logiciel libre, la culture libre et les biens communs, comment les essaimer. Voilà.
Du logiciel libre installé chez le particulier, ok, mais reste le problème en fait tout simplement de sa disponibilité sur les présentoirs de vente. Est-ce qu'il y a des vendeurs d'informatique avec qui vous êtes partenaire, ou c'est encore un secteur sur lequel il va falloir occuper les casquettes d'hypermarché?
Alors oui, on a justement, je vais te sortir les deux cartes de visite. En fait, on travaille, oui, effectivement, avec plusieurs. Hein. On travaille aussi avec Nuas qui recycle des ordinateurs et qui va les revendre. On travaille avec Emmaüs qui recycle des ordinateurs, enfin reconditionne des ordinateurs et qui va les revendre. Et on travaille aussi avec des boutiques qui ont pignon sur rue dans la ville de Montpellier, avec des partenariats très forts depuis de nombreuses années. Et en fait, quand vous allez avec l'étiquette Montpellier, vous allez chercher un ordinateur ou du matériel informatique, mais en général, c'est un ordinateur. Vous pouvez l'acheter soit sans système, soit avec un système déjà, alors soit en double boot, soit avec un Linux. Et le Linux, en général, vous le choisissez. Et si c'est sans système, on est en collaboration avec ce magasin, les gens viennent et on leur installe la distribution de leur choix. Donc effectivement, on a un partenariat depuis de nombreuses années et du coup, ces gens-là travaillent et reçoivent les gens qui sont envoyés par Montpellier de façon plutôt agréable et du coup font de la qualité, et nous ça nous intéresse aussi, donc ça intéresse tout le monde, ça intéresse les clients, ça intéresse le magasin et ça intéresse nous. Par contre, le partenariat, il nous apporte rien sauf une petite ristourne de temps en temps quand on y va.
Et simplement pour compléter ce que tu dis, en dehors des personnes qui ont en proximité des boutiques qui sont relativement petites à Montpellier ou des gens qui ont des recycleries, on a aussi des grandes entreprises qui sont venues récemment nous démarcher lors de la fête de la science. On en a été étonnés, ils avaient des questions, c'était les groupes de stratèges, deux groupes de stratèges de deux entreprises différentes. Et donc, ils nous ont demandé de venir faire des choses avec eux. Pourquoi pas, on va étudier ce qu'ils ont à nous dire, on va les écouter en tout cas, on va pousser un peu plus loin. Là, notre calendrier va être un peu occupé dans les jours prochains, hein, jusqu'en mi-décembre, mais on aura la dernière semaine de décembre à leur consacrer s'ils l'acceptent.
On mettra tous les liens sur le site de l'émission, on fait un petit break musical. Thank you. Corkman, ensemble. Vous écoutez Radio Éphémère. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Myriam Criquet et Pascal Arnoux de l'association Montpellibre pour parler de la place des groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres ou de Linux et tout ça. Et c'est vrai qu'à Toulouse, nous avons la chance immense d'avoir tout libre. Enfin, je dis une chance, elle a été construite, cette chance. Elle a été construite avec tous les bénévoles qui sont derrière. Outre la vôtre, quelles sont les autres grandes associations que l'on trouve en région, en proximité, justement, avec le public?
Bon, on connaît tous Framasoft, mais Framasoft, c'est une association, c'est pas un GUL. Donc, il existe des grands GUL quand même à Lyon, à Nice, hein, du côté de Nice, Linux Azure pour les nommer, Parinux à Paris. Donc, il y a quelques GUL aussi à Bordeaux, à Nantes aussi, j'en connais quelques-uns, à Dijon aussi, il y en a qui sont assez dynamiques. Dans l'Oise aussi, Oisux, nos amis de Oisux, qui font aussi la promotion des Mamountous.
Arles Linux, je pense à Arles Linux en PACA, qui fait un très beau travail aussi, qui est récent, mais c'est un super GUL.
Alors, j'ai cherché en préparant cette émission. Il n'y a pas beaucoup, finalement, d'annuaires qui sont tenus à jour. Et soit ils en oublient, soit ce sont des groupes qui n'existent plus, ce qui est bien dommage. Et c'est vrai que, bon, pour fédérer des associations, ben, par exemple, il y a la FUL qui a plusieurs missions, mais qui n'a pas une mission spécifique vis-à-vis des groupes locaux, peut-être ce qui manque. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a justement une fédération qui est à monter en plus pour de ce côté-là, où finalement c'est complètement superflu. On arrive très bien à se fédérer sans avoir à monter une structure.
Je crois que avant de monter une structure, il convient de renforcer celle qui existe déjà, c'est-à-dire de se renforcer les uns les autres. On a tous des spécificités. On a tous des forces et il faut effectivement, si on veut être crédible, avoir conscience de notre identité, 2, conscience de nos forces, 3, conscience de notre besoin de synergie et des complémentarités qui peuvent exister avec d'autres GUL. C'est un peu ce que l'on a fait dans cette journée inter-GUL, c'était un peu la conclusion de cette journée inter-GUL. Et c'est vrai que nous, on avait un peu imaginé en amont la GUL Academy qui a eu un écho très favorable. C'est-à-dire que les autres GUL ont reconnu que oui, c'était super, entre pairs, de pouvoir s'aider et se renforcer. Et donc ça, pour moi, c'est la première étape. S'il apparaît ensuite qu'il y ait un besoin de faire autre chose, je pense que justement le fait de se rencontrer, de se renforcer et de travailler ensemble nous permettra d'y répondre aisément. Mais la première étape, selon les gens qui étaient présents en tout cas aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg cet été, c'était effectivement se renforcer cette GUL Academy qu'on avait imaginée.
Bon, ça peut aussi sembler surprenant, mais c'est vrai que les Français sont capables de se fédérer alors qu'on est un pays aux 1000 fromages. Est-ce que fédérer les Linuxiens entre eux, ça peut montrer des difficultés, sachant qu'ils se divisent eux-mêmes entre les paquets apt et les paquets RPM?
En fait, on a tenté de créer une fédération régionale des utilisateurs du libre, justement pour porter l'organisation des rencontres mondiales en 2014. En fait, ça a été un échec total. Donc, on a arrêté. Oui, parce qu'il y avait des divergences d'opinion et de conception du logiciel libre qui étaient différentes. Moi, je pense que ça se fait naturellement. Aujourd'hui, on a remonté une opération de fait, mais qui n'existait pas dans les papiers. Grâce à Framasoft, on a fait des chatons avec un hackerspace et puis un groupe qui distribue un peu du haut débit libre et le GUL de Montpellier. Donc on est trois associations qui travaillons ensemble et avec une entreprise qui fait du libre, mais c'est une entreprise qui génère des bénéfices. Et donc à tous les quatre, on organise des chatons. Donc voilà, c'est une fédération d'outils, d'individus, puisqu'il y a plusieurs individus de chaque association qui font un peu la maintenance de ces chatons. Et puis ça marche depuis quelques années et il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas appelé ça une fédération, mais c'est une fédération en tout cas de compétences de fait.
En fait, je me pose la question, je m'interroge sur le point de savoir si quelque chose de top-down peut être compatible effectivement avec l'esprit du libre et donc des libristes. Il me semble que ce qui correspond à l'esprit du libre et des libristes, c'est une économie en droit, un management complètement différent, c'est celle de la forêt de bambous. C'est-à-dire dans une forêt de bambous, tu croises des bambous qui sont grands, d'autres qui sont petits, des gros, des maigres. Par contre, ils sont tous liés par les rhizomes. Pourquoi vouloir les égaliser? Pourquoi vouloir avoir quelque chose qui soit au-dessus? Je me demande si cette forêt de bambous liée par les rhizomes n'est pas suffisante. Alors on va tester, on va expérimenter, et peut-être que l'année prochaine on pourra faire le point, peut-être que l'année prochaine on pourra te répondre.
Et là-dessus, il n'y a qu'à regarder Linux, hein, c'est un logiciel libre, et finalement, il n'y a pas un seul Linux. Des fois, on me dit, mais pourquoi il n'y aurait pas un seul Linux avec une seule distribution, un seul bureau, et les gens comme ça, ils s'y perdent pas. Mais justement, la diversité du libre, c'est avoir le choix. Imaginez aller dans un magasin et vous avez qu'une boîte de sucre, qu'une bouteille d'eau, et voilà, il n'y a pas de choix, et finalement, l'eau, c'est toujours la même. On a choisi pour vous. Et non, la diversité justement du numérique dans Linux, c'est d'avoir le choix d'une distribution. Ça peut être Arch Linux, Mageia, ça peut être voilà, avoir le choix, c'est ça qui est super.
Est-ce qu'il existe un réseau spécialisé, une mailing list par exemple pour les bibliothèques publiques qui voudraient faire venir des intervenants ou chercher des conseils, pour les centres de loisirs, pour les petites mairies, justement toutes ces structures qui aimeraient bien faire mais qui n'ont pas forcément les moyens immédiats de toucher suffisamment de monde autour d'eux?
Il n'y a pas de lisibilité, comme on le disait tout à l'heure, de l'offre du libre aujourd'hui à notre connaissance en France et dans le monde. C'est un mouvement qui est assez récent, 35 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Et en même temps, c'est suffisant pour pouvoir avoir l'âge de la maturité et donc d'un début de structuration. Ce que tu demandes, c'est ce qui commence, c'est l'un des départs de la structuration. Est-ce qu'on se fédère ou pas? Est-ce qu'on pose des charges, etc. Tu es en train de poser toutes les questions que se posent tous les secteurs d'activité quand ils arrivent à maturation.
Il n'y a pas besoin d'une mailing list, il n'y a pas besoin d'une fédération derrière ou quoi que ce soit. Il suffit juste de créer une mailing list.
L'idée même d'avoir une mailing list ne peut pas se faire au départ, quand il n'y a qu'une seule entreprise ou association qui travaille sur un sujet. Donc ça ne peut se faire que quand il y en a plusieurs et qu'on se dit, eh ben, à côté de chez moi, qui est-ce qui pourrait m'aider? Et du coup, ça demande une certaine maturité. Alors de ça, on a témoigné avec les acteurs de l'ESS, parce que si tu veux, comme nous, on te l'a dit, on est très ESS. Ils se sont structurés il y a quelques années avant et ils nous disent, en nous regardant, mais vous nous rappelez les questions que nous nous sommes posées avant. Tu vois donc l'importance de ce qu'on fait aussi avec les acteurs de l'ESS pour échanger sur certains thèmes. Donc effectivement, ce sont des choses qui se mettront en place. N'ayons crainte, c'est nécessaire. Mais à ma connaissance aujourd'hui, ça ne l'est pas fait. Et en tout cas, là encore, je me suis positionnée avec API pour donner une lisibilité de l'offre du libre, des services libres qui portent sur le sujet de World Cup, qui est un numérique éthique, social, solidaire et inclusif pour tous, et qui commence pendant 6 mois à observer ce qui se passe pour les personnes en état de fragilité, et notamment les personnes âgées et les personnes handicapées.
Pascal.
Donc pour compléter un petit peu cette information, pour les médiathèques, nous travaillons avec des médiathèques sur Montpellier, la médiathèque Émile Zola, Federico Fellini, celle de Terrance, celle de Moggio. Évidemment, tous ces gens-là se réunissent et parlent de nous. se disent, ben voilà, moi j'ai rencontré Montpellibre, ils m'ont fait une initiation à GIMP, ils m'ont fait une initiation à LibreOffice, à Blender, et c'était très bien. Et du coup, ces gens-là parlent, et après on est contacté, par exemple, par Sète, Frontignan, des villes à côté, Béziers, et voilà, il y a un réseau, il y a une liste de diffusion des médiathèques qui travaillent tout ensemble, et aussi des bibliothèques qui travaillent tout ensemble, les archives aussi, et ils appellent après les prestations, enfin Montpellibre, à fournir des prestations. Et nous, en tant que libristes, nous avons aussi une liste de diffusion qui s'appelle Intergul, qui est portée par la FUL, justement. Mais malheureusement, cette liste n'est pas très active. On essaye des fois d'envoyer des messages, mais chaque GUL a des listes, a sa liste de diffusion aussi.
Donc, des listes qui existent déjà et qui peuvent peut-être être utilisées ou réactivées, une lisibilité des projets qu'on n'a pas encore, mais sur lesquels on est en train de travailler. Et enfin, c'est vrai que votre discussion me fait penser au fait qu'on a proposé avec, si tu veux, on a été les premiers en France à apporter la communauté Wikipédia à apporter à des archives départementales la communauté Wikipédia. Donc elles ont passé les archives départementales de l'Hérault, le département Mon Vie, a passé donc un partenariat avec Wikimedia France, ce qui a donné la naissance du groupe GLAM, Group Libraries, Archives and Museums, en France. Et en fait, je serai peut-être, si nous sommes sélectionnés, amenée à prononcer une conférence justement en retour d'expérience avec les archives avec lesquelles on travaille depuis 5 ans. Et sur ce point, et effectivement sur la question du logiciel libre et de Wikipédia par rapport aux archives et médiathèques, à un congrès qui réunit justement les archives et les médiathèques et qui est un congrès métier.
Très bien. Myriam Criquet, Pascal Arnoux, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir en tout cas. Merci de votre patience et de votre temps.
Au plaisir, Daskritch.
Merci beaucoup à toi.
La version intégrale de cette interview qui dure 57 minutes sera publiée sur notre site cpu.pm. CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief Helpdesk Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci une fois de plus aux équipes du Capitole du Libre. L'intégralité du programme, de l'interview, des extraits et de sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.